dans l'écran radiophonique que vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. dit « Dieu aime les pauvres et vous aidera ». Un jour, en sortant d'une ferme, il dit à Adrien « Je crains que le village ait la peste » et soupire. Adrien lui demande « Faut faire venir le médecin ?» Le prêtre lui dit « Nous n'avons plus de médecin dans le village. » Adrien lui demande « Alors que vont-ils devenir ?» Le prêtre soupire. Au fur et à mesure que les jours passent, Adrien se sent bien au milieu de ces gens et de sa nouvelle vie. Il a l'esprit calme. Cette nouvelle identité, ou plutôt sa nouvelle vie, est pour lui comme une renaissance qui le fait vivre d'une façon sereine. Comme les ventes de produits de beauté diminuent, Jean Forvigny, pour vivifier le bénéfice, lance un nouveau produit qui soi-disant protège des épidémies. Elle n'a pas osé dire la peste parce que les gens qui verraient les autres acheter ce produit penseront qu'ils ont la peste. Et puis dire les épidémies, c'est plus neutre et comme ça, si ça ne marche pas, on peut dire sauf la peste, etc. Dans le hall de son siège, au milieu des représentants de son groupe, avec buffet, champagne, etc., elle présente à la presse son nouveau produit. Jean, sur une estrade, devant les caméras, dit « Et en plus, elle raffermit la peau, la rajeunit et supprime les rides. » Le produit a du succès. Il se vend dans les boutiques spécialisées, Galeries Lafayette et autres grandes surfaces. Albert dit à sa femme, « Ma mère a du flair pour les affaires. » La femme lui dit, « Un jour, ça va lui coûter, lui jouer un vilain tour. » Il voit que sa femme a un flacon de cette crème sur sa coiffeuse et rit. Le docteur Ambert veut faire analyser cette crème miracle. Il l'envoie à un laboratoire. Après une semaine, on lui envoie le rapport. Il est écrit que c'est inefficace pour la peste, mais inoffensif. En tout cas, ça ne peut rien pour les rides, ni pour les épidémies. Il rit et en parle à Elisabeth. Malheureusement, la peste, ou ce qui y ressemble, continue à faire des ravages. On ne trouve toujours pas le produit miracle pour enrayer cette épidémie. on amène au service du docteur Ambert un enfant de 12 années. Il est maigre, très maigre, fiévreux, cheveux blonds. Malgré la maigreur de son visage, il a quelque chose de touchant. L'enfant souffre beaucoup. Lorsque Jacques le voit, il se sent attiré par cet enfant. C'est malgré lui et il en a honte. Il s'est dit qu'il n'est qu'un pervers, mais ne peut s'empêcher d'être attiré par ce doux visage qui n'est pas très beau, mais qui est attachant. Il reste le plus longtemps possible à côté de lui, et ceci malgré lui. Il est gêné de le toucher parce qu'il se dit qu'il le fait avec des intentions troubles. L'enfant a beaucoup de fièvre et des ganglions. Il a toujours soif. Jacques se dit qu'il a la peste et qu'il est perdu pour lui et les autres. Il essaye de tout faire pour lui, mais comme un malade normal. L'enfant parle peu. Il demande souvent à Jacques,
est-ce que je vais pouvoir sortir d'ici?
Il ne sait quoi lui répondre. Alors il lui dit, quand tu seras guéri, tu as de la famille? L'enfant lui dit,
non, mais je peux tout aussi bien vivre seul comme je le faisais avant.
Des fois, lorsque l'enfant souffre trop, Jacques lui dit,
ça va passer, tu vas guérir.
Et l'enfant lui montre qu'il ne le croit pas. Et puis, une nuit, Jacques est de permanence. Elisabeth entre dans son bureau. Elle lui dit,
le petit du 10 est en train de mourir.
Oui, il est en train de mourir.
Vite, Jacques sort du bureau pour aller voir l'enfant. L'enfant est en sueur et souffre énormément, il ne peut parler. Le docteur s'assoit près du lit et lui essuie son visage. Il est effondré parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Jusqu'au petit matin, il l'a veillé. Et l'enfant est mort dans ses bras sans rien dire. Grand-père est effondré. Comme Adrien ne se souvient plus de son nom, le bon curé lui dit. Ils sont assis tous les deux sur le banc devant la maison.
Comme tu te souviens plus de ton nom et que tu veux bien que tu en aies un, alors je vais t'en donner un. Qu'est-ce que tu penses?
Adrien lui dit.
Oui, je veux bien, mon père.
Le curé réfléchit, lui dit.
Qu'est-ce que tu penses de Cyril?
Adrien lui dit,
je veux bien, Cyril.
Alors le curé lui dit,
bien, Cyril, alors.
Le curé lui demande encore,
tu ne souffres pas du manque de passé?
Nous allons parler maintenant, appeler maintenant plutôt, Adrien Cyril, puisque nous avons appris qu'il s'appellerait Cyril. Donc Cyril lui dit,
Oui, bien sûr, ça me gêne de temps en temps, mais pas beaucoup.
Le curé lui dit, ça viendra sûrement.
Cyril lui dit, j'ai peur de ce que je vais découvrir. Enfin, lorsque je saurai qui je suis peut-être quelqu'un de ne pas très bien et qui a fait des choses mauvaises.
Au fur et à mesure que les jours passent et que le curé, en plus du catéchisme à Adrien, lui donne quelques petites leçons, le curé s'aperçoit qu'il est intelligent et capable de bien apprendre. Il lui dit un soir après les leçons,
« Avec moi, lorsque tu apprends, je me rends compte, c'est que tu es capable d'apprendre. Il faudrait, c'est que tu puisses aller étudier ailleurs. »
Ici, Cyril prend peur. Il lui dit, « J'aimerais mieux rester ici. »
Le curé lui dit, « Avec moi, tu perds ton temps. »
Alors le bon père écrit une lettre à un de ses amis qui tient l'école secondaire à Lyon. Il lui explique le corps de Cyril. Son ami lui répond et lui dit qu'il est d'accord pour recevoir le jeune protégé. Le bon curé parle à Cyril.
Cyril est effrayé. Le curé lui dit, pour les formalités, pour simplifier les choses, on pourra dire que tu es mon neveu. Et puis, en ces temps troubles, on n'a pas le temps de s'occuper des identités des gens. Qu'est-ce que tu en dis ?
Cyril lui répond, moi je veux bien être vos neveux. Et pour ce qui est de l'école, là j'ai peur. Je ne crois pas être à la hauteur. Et puis, je vais être entouré de personnes que je ne connais pas. Ça me fait peur.
Le curé lui dit, écoute, mon neveu, puisque tu acceptes d'être mon neveu, je suis sûr que il y arrivera. Tu es suffisamment intelligent pour pouvoir suivre des études. Et pour ce qui est des personnes que tu vas rencontrer, cela se passera très bien. Puis dis-toi bien, c'est que lorsque tu vas pour la première fois dans une école, tu ne connais personne, et au bout de quelque temps, on se fait de bons amis.
Puis la chose est arrangée pour le départ de Cyril. Le bon curé Paul prépare comme il peut le trousseau. Il demande à des gens du village de vieux vêtements et de vieilles chaussures, et les fait essayer à Cyril. Ses vêtements lui vont. Enfin, à peu près, le prêtre les met dans une valise après les avoir nettoyés. Et puis, un mois plus tard, ils partent tous les deux en carriole pour aller à la ville voisine prendre le train, car il y a encore quelques trains qui passent. Ils vont prendre le train pour aller jusqu'à Lyon. Le train est bondé. Ils sont en deuxième classe. Le voyage est insupportable. Il fait trop chaud. Même en ouvrant les fenêtres, ça fait rentrer la poussière. Les curés et Cyril sont assis l'un côté de l'autre. Dans un compartiment de 6 places, ils sont à côté de gens tristes et moroses. Le curé dit à Cyril, « Tu ne te fais pas de soucis. Je sais que ça se passera très bien. Et puis le directeur de l'école est un ami. » Le trajet est long et pénible. Le curé a mis dans un panier
de quoi manger et boire. Ils se sentent gênés de manger et de boire devant les autres personnes. La nuit, ils essayent de dormir comme ils peuvent. Après deux jours de longs, très longs trajets, ils arrivent, gare de Perrache, sortent du train en sueur, courbaturés, fatigués. Le quai est rempli de monde, de gens comme eux. Ils suivent la foule pour sortir de cette gare qui ressemble à une cour des miracles.
Rosendal, Rotterdam, Leipzig, un service de restauration Gris Express.
Enfin, ils sont sortis et sont place Carnot. La place n'a plus d'espace vert, d'arbres, ce n'est que poussière grise. Toute la ville est recouverte de poussière grise. Cyril voit avec effroi cette grande ville avec ses grands immeubles et ses rues. Il ne croit pas se souvenir d'avoir été dans une ville. Le prêtre aussi est désorienté. Il dit à Cyril, « Je crois que le plus simple, c'est de prendre un taxi. Viens. » Ils vont vers les stations de taxi où il y a une grande foule qui attendent leur tour. Après une demi-heure d'attente qui leur a paru longue, ils ont pu avoir un taxi pour les mener à la place de la Croix-Rousse, ou plutôt sur les pentes de la Croix-Rousse. Durant le trajet, le prêtre et Cyril regardent cette ville qui ressemble à une ville morte. Enfin, ils arrivent sur les pentes de la Croix-Rousse, rue des Chartreux, où se trouve le lycée. Et la rue des Chartreux est une petite rue très étroite qui monte. Le lycée prend une grande partie de la rue avec un mur très haut, une grande bâtisse genre 19e siècle, qui a une porte en bois à deux battants pour l'entrée de l'établissement. Ils sortent du taxi. Ils voient sortir du lycée des élèves. Ce sont des jeunes de tout âge, dans l'ensemble bien habillés et calmes. Cyril suit le prêtre intimidé, surtout après avoir vu les jeunes gens. Il a peur des jeunes qui ont à peu près son âge. Le prêtre et Cyril entrent dans l'établissement. Le prêtre frappe à une porte vitrée. Se trouve à l'entrée à droite. Une voix dit « Entrez !» Et ils entrent tous les deux. Trouve en face d'eux un vieil homme, petit, cheveux blancs, habillé d'un pantalon noir et t-shirt marine. L'homme leur demande « Vous désirez ?» Le prêtre lui dit « Nous avons rendez-vous avec le directeur, le père Daudet. » L'homme lui demande « Vous êtes ?» Le prêtre lui dit, « Sub le père Paul !» Le concierge lui dit, « Bien, je vais voir. » Et il se retire pour téléphoner. Puis il revient et leur dit, « Monsieur le directeur veut bien vous recevoir. Veuillez me suivre. »
Ils suivent le concierge qui les fait traverser une cour pavée avec au centre de la cour il y a une statue de la Vierge. Le tout est fermé tout autour par des bâtiments de 3 étages et au rez-de-chaussée il y a des passages avec des colonnes en ogive. Ils sont tous les deux très intimidés par ce décor. Le concierge les mène au bâtiment du centre de la cour. Et là, il les fait entrer par une double porte vitrée. Il y a un grand couloir, en face de la porte, un grand escalier de pierre. Il leur fait monter les escaliers de pierre jusqu'au premier étage. Enfin, il leur fait suivre un long couloir. Et au bout du couloir, le concierge frappe à une porte en bois. Une voix dit « Entrez !» Le concierge le fait entrer. Là, il se trouve dans une grande pièce avec une grande fenêtre qui s'ouvre à double battant. La pièce est meublée en bureau avec de gros meubles de bois cirés. Ce sont de très vieux meubles. Sur le côté du bureau, une grande bibliothèque. Devant le bureau, des chaises empaillées. Et au-dessus du bureau, il y a sur le mur un grand Christ en bois. Assis au bureau se trouve un homme d'une cinquantaine d'années qui semble grand, maigre, les cheveux grisonnants, le regard sévère, rasé de près, habillé en soutane noire. Lorsqu'il les a vus entrer, le prêtre s'est levé de son bureau et est allé à leur rencontre en tendant les bras. Il demande « Vous avez fait bon voyage ?» Le père Paul lui dit « Oui, assez pénible. » Le père Daudet lui dit « Tout à l'heure, vous pourrez vous reposer et vous resterez un peu. » Il regarde Cyril et demande « C'est ce jeune homme ?» Le père Paul lui dit « Oui, c'est lui. » Le père Daudet le regarde bien et dit « Il a l'air bien. » Le père Paul sourit et le père Daudet dit « Bien, nous allons nous asseoir à nos bureaux pour discuter un peu. » Et ils vont s'asseoir. Le père Daudet dit « Je ne savais pas que vous aviez un neveu. » Le père Paul rougit. Le père Daudet s'en aperçoit et ne dit rien. Il dit « Bien, il va falloir maintenant savoir un peu plus de renseignements sur ses études. » Cyril devient tout rouge. Le père Paul lui dit « C'est un enfant intelligent qui a eu un ennui de santé, si l'on peut dire comme ça. Il est tombé. Sa tête s'est cognée sur un rocher et a perdu connaissance. Ce qui fait que malheureusement, il ne sait plus grand-chose sur lui. » Je l'ai hébergé parce que ses parents ne sont plus là. Je l'ai soigné et fait faire quelques exercices. Je me suis rendu compte qu'il était intelligent et qu'il serait capable de poursuivre ses études. Malheureusement, il faudrait, c'est peut-être qu'il reparte à zéro à cause qu'il a perdu la mémoire. Le père Daudet soupire et demande « Je crains que pour notre établissement, ça ne peut convenir à ce jeune homme. Nous ne pouvons pas prendre des enfants des ans qu'ils ont... Enfin, des enfants qui n'ont pas un niveau normal. Il faudrait, c'est peut-être, le mener dans un établissement spécialisé pour son cas, car je crains qu'il ne puisse suivre. » Cyril est tout rouge, mais le père Paul dit « Moi, je suis sûr qu'il pourra suivre. Bien entendu, il faudra quelque temps d'adaptation. » Le père Daudet réfléchit et dit « Bien, nous allons lui faire faire un petit examen pour voir à quel niveau il est. » Le père Paul lui dit « Je vous remercie. » Puis le père Daudet dit « Nous allons inscrire ce jeune homme et ensuite nous lui présenterons l'établissement. » Il se lève. Il leur dit « Veuillez me suivre. »
Nous allons aller au secrétariat. Ils sont amenés au secrétariat pour l'inscription de Cyril, qui est inscrit comme le neveu du père Paul, et tout se passe bien. Puis, on montre l'établissement à Cyril. Ensuite, on lui montre sa chambre. Il a une chambre individuelle très propre, avec un lit à une place, une armoire, un bureau et chaises. Après que le père Daudet les ait fait manger au réfectoire, vide d'élèves, c'est le moment de dire adieu au père Paul. Cyril lui dit « Je me sens un peu perdu. » Le père Paul lui dit « Ça ira très bien, tu verras. » Et il l'embrasse sur la joue. Cyril ému lui dit « Je remercie pour tout. » Le père lui dit « Ce n'est rien. Ce n'est rien ce que j'ai fait. » Et le père est parti. Ensuite, Cyril est allé se reposer et ranger ses affaires à sa chambre. Dans l'après-midi, le père Daudet le fait venir dans son bureau et lui fait faire quelques exercices pour voir à quel niveau il est. Il décide, c'est de le mettre en cinquième avec des cours particuliers pour qu'il puisse être au niveau du point de vue des langues étrangères. Le père Daudet a décidé qu'il apprendrait l'anglais et le latin. Dès le lendemain matin, le pauvre Cyril est présenté aux élèves de 5e. Il a honte d'être avec les petits. Les jeunes le regardent en riant et se moquant de lui. Le père Daudet, qui est le supérieur et directeur de l'établissement, explique aussi pourquoi il est ici. Il leur dit qu'il a eu un accident et que c'est pour ça qu'il est dans cette classe, parce qu'il a perdu la mémoire. Mais il est très intelligent. Cyril, se sentant humilié, se jure de travailler dur pour sauter des classes, pour retrouver des élèves de son âge. Mais ce ne sera pas facile, parce que les autres sont loin de lui et même certains ont quitté le lycée. Oui, même certains ont quitté le lycée. Les élèves de sa classe et même les autres rigolent en le voyant. Il est plus grand que les autres, il a l'air gauche et timide au milieu d'eux. Il voit que les élèves se moquent de lui et même ont l'air narquois. Les professeurs aussi se moquent de lui, surtout lorsqu'il lui pose des questions devant toute la classe. Cyril a des difficultés à répondre aux questions et à suivre les cours. En dehors des cours, au lieu d'être en récréation, il passe son temps dans ses livres. Au début, c'est très dur, parce que pour beaucoup de mots, il a des difficultés à les comprendre, parce qu'il a perdu la mémoire. C'est dur pour lui aussi d'apprendre les langues étrangères, l'anglais et le latin. Les professeurs finissent par le trouver attachant, parce qu'ils voient qu'il fait des efforts pour apprendre. Alors, ils le surveillent et le conseillent. Le samedi et le dimanche, qui sont jours de congé, comme lui est pensionnaire et comme il n'a pas de famille, alors il passe l'après-midi à visiter le quartier. Le quartier n'est pas très intéressant pour un jeune homme. Il n'y a rien, à part quelques commerces et même quelques rares commerçants, et sur le boulevard, qui est un peu plus haut.
Il a tous les jours un marché, mais rien d'autre. C'est triste pour lui. Un jour, il décide, c'est de descendre à pied les pentes de la Croix-Rousse pour voir comme ça. Il s'aperçoit que les pentes de la Croix-Rousse, ce sont des rues étroites, avec des immeubles délabrés, aux murs remplis de graffitis, tapissés d'affiches dégueulasses. Il rencontre peu de gens, et les gens qu'il rencontre ont une allure louche, bizarre. Ce sont des jeunes habillés en guenilles, cheveux longs, sales, avec des piercings et des tatouages au bras. Arrivé en bas des pentes, il tombe sur une grande place, délabrée, où tout le tour, il y a des immeubles, dont un doit être l'hôtel de ville. Tout ceci est sale et en très mauvais état. Même la fontaine sur la place est dégradée et l'eau ne coule plus. Il est déçu par cette ville pleine de poussière où tout semble délabré. Très vite, Civril apprend qu'il y a aussi la peste dans cette ville. Il voit les élèves du lycée aider les miséreux et les malades. Les prêtres de l'établissement et les gens du quartier leur font porter des repas cuisinés de produits en conserve qui viennent de leurs terres. Les prêtres ont des terres et des fermes à la campagne. Leurs terres produisent très peu, mais on se débrouille pour le lycée et les pauvres. La distribution des aliments sont faites par les élèves en dehors des cours. Et Cyril participe parce qu'il y a l'a demandé à le faire. Parce qu'il se dit que lui, lorsqu'il avait besoin, on l'avait aidé et qu'il doit aider les gens qui sont dans le besoin. Donc, il va avec d'autres élèves dans des taudis sordides aux odeurs infectes. Ils entrent chez des gens plus que misérables qui n'ont rien, ont un lit pour plusieurs personnes, sont couchés et gravement malades. Les gens sont mal, fiévreux, n'attendent plus rien de la vie. Il y a au milieu des adultes et des enfants en guenille qui meurent de faim et quelquefois même très souvent sont malades. Les appartements sentent l'humidité et l'urine parce que les malades sont dans leur lit et ne peuvent pas les changer constamment. Lorsque les jeunes gens arrivent chez eux, les pauvres gens tendent des bras pour prendre le paquet d'alimentation et se mettent de suite à manger. Tout ça dégoûte Cyril, mais il tient le coup par charité. Il fait ses visites avec ses camarades d'école le samedi matin. C'est le seul rapport qu'il a avec ses camarades d'école, car il ne leur parle pas. Et les autres le prennent pour un demeuré en retard, qui est très en retard pour son âge. Il le tolère juste pour les visites de charité. Cyril sent au cours de ses visites ses camarades se moquaient un peu des déshérités. Il se dit souvent que peut-être lui vient d'une famille comme ça. Il y a un jeune qui lui aussi aide pour les repas et à peu près de l'âge de Cyril. Il s'appelle Serge. Il est grand, mince, distingué, blond, le visage assez beau et habillé avec beaucoup d'élégance. Il ne se moque pas de Cyril et même le trouve gentil.
Un jour, il dit à Cyril, « Ça te dirait de venir à une soirée avec moi ?» Cyril, surpris, lui dit, « Je ne sais pas. » Serge lui dit, « Si tu viens, accepte. N'aie pas peur d'être gêné. Et puis, ce sera très drôle. » Cyril demande, « Et ce sera où ?» Serge lui dit, « Dans une villa, à Villeurbanne. » Cyril lui dit, « Je ne sais pas où c'est. » Serge lui dit, « Ne te fais pas de soucis, je t'amènerai en voiture. Ce n'est pas loin, juste à côté de Lyon. » Cyril lui dit, « Mais je n'ai rien à me mettre. » Serge lui dit, « Ça n'a pas d'importance. À notre époque, on s'habille comme on peut. Allez, à la guerre comme à la guerre. » Cyril lui dit, « Bien, je vais avec toi, mais il faut me promettre que tu resteras avec moi durant la soirée. » Serge lui dit tout heureux, « Je te le promets de rester durant toute la soirée près de toi. » Et le samedi soir, Cyril est parti en voiture avec Serge. Serge conduit la voiture de son père, qui est une BMW noire. Cyril est très gêné. Il se demande comment la soirée va se passer. Il se dit que peut-être il n'est jamais allé à une soirée. Serge, lui, est très détendu et lui dit, « Tu verras, il y aura beaucoup de filles à voir. » Enfin, ils arrivent. La maison se trouve dans une petite rue tranquille où il y a des petites maisons. C'est une grande maison blanche, moderne, de deux étages au fond d'un parc. Sur le côté, il y a une grande piscine. La propriété est entourée d'un petit muret. Lorsqu'ils sont descendus de voiture, ils entendent le bruit de la soirée et toute la maison et le parc est illuminé. Ils sont sortis de voiture, Serge va sonner au portail. Ils attendent un moment et le portail s'ouvre. Apparaît une jeune fille rousse dans les 18 ans, cheveux en bataille, l'air gai et très belle, habillée d'une robe très courte marine à paillettes et talons hauts. Elle porte à la main une coupe de champagne. Elle leur dit « Salut, entrez !» Ils entrent. Serge voit qu'il y a beaucoup de monde. C'est surtout des jeunes qui se sont invités. Ça rit, ça se court après, ça crie, ça danse. Il y en a même qui se baignent tout habillés dans la piscine en criant et buvant. Certains garçons sur la berge d'Est des filles dans la piscine qui crient comme des folles, ce qui fait beaucoup de bruit. Ils sont tous très gênés de voir ça. La fille les embrasse et leur demande qui est-ce. Serge lui dit, c'est un copain d'école, il s'appelle Cyril. Elle dit à Cyril, enchanté. Et elle les amène vers les autres. Personne ne fait attention à eux. Ça crie, ça rit, ça danse et même certains nagent dans la piscine tout habillés en riant. Paraît étrange à Cyril et Serge. Beaucoup ont des verres à la main et sont déjà
ivres. Certains garçons vont vers les filles pour les ennuyer et les draguer, ce qui fait que les filles, entourées de garçons, sont toutes excitées et rient comme des idiotes, et d'autres garçons restent en les regardant en riant. Les filles, la fille les a laissées. Serge mène Cyril au buffet et lui fait prendre une coupe de champagne et en prend une. Puis Serge présente à quelques connaissances, garçons et filles, Cyril. Puis Serge le laisse. Ne sachant que faire, Cyril regarde la soirée. Il voit que les jeunes gens boivent beaucoup d'alcool et sont débraillés, et très vite, le maquillage des jeunes filles se dégrade. Il s'ennuie ferme. Au bout de quelques temps, Serge va le chercher pour le mener à un groupe de jeunes gens et de jeunes filles. Il le présente et les autres se présentent aussi. On lui offre du whisky, de l'alcool très fort. Cyril n'a pas osé dire non par timidité. Ensuite, l'alcool aidant, il s'est détendu et se sent un peu comme les autres. Depuis quelques temps, il est complètement ivre. On lui propose même de la blanche qu'il accepte de prendre sans savoir exactement ce que c'est. Il ne sait plus où il en est. Il entre le mélange des alcools et un peu de drogue. Oui, il est entre le mélange des alcools et un peu de drogue. Les filles l'amènent danser et il danse comme un fou n'importe comment. Ça fait rire tout le monde. Puis au bout de quelques temps, il a la tête qui tourne, se sent mal et vomit. Il est complètement ivre et malade. La soirée se passe sans savoir exactement comment pour lui. Serge le cherche, il est allongé au pied d'un arbre complètement ivre. Serge lui dit, faut rentrer, il est tard. Il le soulève, le maintient et le mène à la voiture. Personne ne fait attention à eux. La soirée se termine et tout le monde se prépare à partir. Le jour va se lever. Serge réussit à le faire asseoir dans la voiture et met la voiture en route. Louis Serge a pris de la drogue, mais il est habitué. Cela n'empêche pas de rester lucide. Lui, Cyril, est dans les vapes. Serge sourit. Une fois arrivé au lycée, il le mène à sa chambre. Cyril se réveille avec un gros mal de tête et ne sachant trop ce qu'il a fait. Mais il a honte parce qu'il se dit que Serge l'a vu dans cet état. Lorsque le lundi matin, il revoit Serge dans la cour du lycée et lui dit « Pardonne-moi, je me suis mal comporté, j'ai trop bu, j'ai honte que tu m'aies vu comme ça. » Serge lui dit en riant « Ce n'est rien mon vieux, nous étions tous ivres. Et puis, si tu étais dans cet état, c'est à cause de moi, j'aurais pas dû te faire venir là-bas. Je te demande pardon. » Cyril est content que Serge lui ait parlé comme ça. Il se dit que c'est vraiment un ami. À partir de ce jour, Serge lui prête des livres et l'aide pour ses cours. Cyril se sent moins seul. Il écrit de temps en temps au bon père Paul pour lui dire que tout se passe bien et le remercier. Le prêtre, très heureux que tout se passe bien. Un matin, le père Daudet le convoque dans son bureau. Il y va inquiet. Lorsqu'il entre dans le bureau, le père Daudet a le sourire. Il lui dit « Je suis très satisfait de toi. Tu fais des progrès. J'ai décidé, c'est de te monter d'une classe avant la fin de l'année scolaire. » Cyril est très heureux, lui dit « Je vous remercie mon père. » Le père Daudet lui dit « Tu n'as pas à me remercier, c'est grâce à ton travail. » Le père Daudet a aussi écrit au bon curé Paul pour lui annoncer la bonne nouvelle. Cyril change de classe, ce qui surprend tous les élèves. On commence à le trouver moins débile. Les élèves de la classe supérieure se moquent moins de lui parce qu'ils sont à un âge où l'on ne juge pas ses camarades par le niveau scolaire. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.